L'association Centrale Éthique réfléchit depuis 10 ans sur les principaux sujets qui se posent aux chefs d'entreprise et à la société. Une réflexion active, volontairement ouverte aux non-centraliens. Un entretien de Pascal Marcaggi avec Pablo Santamaria à la tête de ce brainstorming entrepreneurial.
L'école centrale, ça mène éventuellement au développement durable, on peut s'y intéresser.
L'école centrale mène à plein de choses. C'est vrai qu'on a une vision du centralien, directeur d'usine ou à peu près, mais il y en a plein qui font autre chose. Boris Vian était centralien, Antoine l'était aussi. Enfin, c'était les quelques promotions un petit peu spéciales puisque c'était juste après 68. Mais il y a quand même pas mal de centraliens qui sont sortis des sentiers battus pour essayer de faire autre chose.
Et vous-même, vous allez assez régulièrement aux rencontres du groupe SOS.
Les rencontres du groupe SOS, j'y suis allé quelques fois, oui, mais j'ai fait mieux puisque je les ai invités à Centrale Éthique avant qu'ils soient connus, avant qu'ils commencent à faire des rencontres d'ailleurs, puisque les Salter Mardi n'existaient pas à l'époque.
Centrale Éthique donc.
Donc Centrale Éthique, c'est quelque chose qui a vu le jour il y a maintenant pratiquement 10 ans, sachant qu'à l'époque, moi, depuis le milieu des années 90, j'étais dans différents groupes de travail, en particulier du côté de la FPH, la Fondation pour le Progrès de l'Homme, où il y avait des gens qui réfléchissaient sur qu'est-ce qu'on peut faire en éthique dans les petites structures particulières, enfin celles qui n'ont pas de quoi se payer un déontologue et une démarche en tant que telle. Et en réfléchissant, on s'est aperçu effectivement que le réseau centralien existait. C'était un réseau qui avait certaines ouvertures, mais pas tous. C'est vrai que sur les 15 000 centraliens, on ne va pas dire que tous sont tombés dans le berceau du développement durable très tôt. Donc on a créé Centrale Éthique, effectivement, avec cette vision de dire il y a un réseau centralien, il y a une communauté centralienne qui a son rôle à jouer dans la société. Et en même temps, cette communauté, il faut l'ouvrir à des idées qu'elle n'a pas l'habitude d'entendre. Et il faut lui amener des langages qui ne soient pas que techniques.
C'est un petit peu votre rôle.
C'est le rôle de Centrale Éthique. D'ailleurs, en termes d'anecdote, je cite souvent on a commencé à parler du développement durable en 2002, puisque dès qu'on s'est créé, donc les médias n'en parlaient pas encore trop à l'époque. Mais je me souviens d'un dîner-débat où il y a un centralien qui avait pourtant un certain âge et des responsabilités dans une grande société qui a levé son doigt en disant « Mais excusez-moi, c'est quoi l'empreinte écologique ?» Donc c'est vrai qu'on voit qu'il y a des notions qui sont arrivées quand même assez tard dans le grand public ou même dans les gens qui sont censés s'informer des enjeux de société.
Comment est-ce que vous vous y prenez? Parce que la question maintenant, c'est de mettre ça en action. D'un point de vue économique.
Alors déjà, ce qu'on fait, on fait deux sortes de choses. Enfin, en gros, il y a deux produits. Il y a des dîners-débats, donc ça c'est assez classique. Et il y a aussi des groupes de travail qui se donnent des objectifs. Donc les dîners-débats, c'est des vrais dîners-débats. Par exemple, quand on a parlé du réchauffement climatique en 2003, il y avait 3 personnes à la tribune. Il y avait le responsable communication Total, il y avait quelqu'un du CNRS qui depuis d'ailleurs a écrit beaucoup d'articles sur le sujet, et il y avait un des responsables d'éco-carbone. Donc on a eu un vrai débat, parce que les trois n'étaient manifestement pas d'accord sur les origines, les causes et les retombées du réchauffement climatique. Donc on essaye de monter des débats, on essaye de s'accrocher aussi sur des sujets de société. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a réagi assez rapidement là, sur les risques psychosociaux, puisqu'on trouvait qu'il y avait des choses qui se faisaient sur, entre guillemets, le marché qui n'était pas d'une qualité extraordinaire. Donc on s'est dit qu'il y avait des choses à faire. Et évidemment, pour faire ça, comme on le disait tout à l'heure, pour amener aux centraliens des choses qui ne soient pas que techniques, il faut s'ouvrir. C'est-à-dire que Centrale Éthique est un groupement qui est ouvert aux non-centraliens.
Qu'est-ce qui est à faire bouger le plus aujourd'hui? C'est le monde des entreprises, c'est le monde des institutions, parce que les gens ont conscience de tout ça maintenant, mais c'est comment faire?
C'est pas le plus facile. Je pense que déjà, prendre le temps d'écouter des gens qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, entre guillemets, c'est un premier pas. Donc ça, on le fait de manière non douloureuse, parce que dîner ensemble et débattre, ça va, il faut y consacrer quelques heures, mais ça, on arrive à le faire. Ensuite, il faut arriver à mettre des choses en action. Donc ça, c'est...
C'est un peu le cœur de votre démarche.
C'est le cœur de la démarche. D'ailleurs, un des outils qu'on utilise pour faire ça aussi, un outil qu'on aime bien parce qu'on l'utilise dans des logiques plus professionnelles, c'est la notion de questionnaire interactif, c'est-à-dire proposer à quelqu'un de répondre à des questionnaires en ligne et d'avoir en temps réel son profil sur un ou plusieurs critères. Donc c'est vrai que tout au début de Centrale Éthique, par exemple, on a fait tourner un questionnaire qui essayait d'évaluer un petit peu l'éthicité du comportement, entre guillemets, sur plusieurs axes d'ailleurs. Il y avait les connaissances, il y avait ce que je fais dans mon entreprise et mon comportement personnel. Donc on avait travaillé sur ces 3 critères-là. Et ce premier questionnaire Centrale Éthique, il m'a valu quelques mails un petit peu vigoureux, du genre « dis donc, moi je suis vachement éthique et pourtant j'ai eu que ça à ton questionnaire ». Ce qui veut bien dire que quelque part, ça provoque une réflexion.
Comment est-ce qu'on va plus loin?
Le Centrale Éthique est apolitique et religieux. C'est un groupement purement associatif, donc ça ne va pas se transformer en parti politique. Par contre, aller plus loin, c'est essayer de semer des graines et puis de faire en sorte que certaines personnes s'en emparent et les fassent pousser de leur côté. Je crois que déjà quand on arrive à faire bouger les représentations, les postures dans la tête des gens qui ont du pouvoir, pouvoir dans notre société, c'est une manière de faire bouger les choses petit à petit. Oui.
Mais d'un côté, on sent bien qu'il y a une volonté politique, elle est malgré tout réelle, quoi qu'on en pense. Et simplement, après ça, pour inoculer ça, est-ce que vous avez une perspective, une idée d'un nouveau système qui soit, et il n'y a pas de problème, il faut qu'il soit économiquement rentable?
Quand on regarde un petit peu les réactions lors des dîners ou quand on analyse les résultats des questionnaires, on s'aperçoit en fait que dans notre société, les centraliens, là, il ne faut pas se leurrer, il y en a beaucoup qui sont au pouvoir dans nos organisations, plutôt du côté des entreprises d'ailleurs que de l'ENA ou des institutions. Mais en gros, donc, il y a des gens qui sont jeunes, qui sortent de l'école ou qui sont sortis depuis, on va dire, 5-10 ans, qui eux ont compris qu'il fallait faire bouger les choses. D'ailleurs, il y a de plus en plus de jeunes centraliens, par exemple, qui prennent des années de césure. Si vous allez voir le site mademoisellefaitcentrale.com, le nouveau site qui vient de sortir pour donner envie aux filles de faire centrale, un des premiers interviews qui est présenté, c'est une jeune fille, effectivement, qui a pris une année de césure pour aller s'occuper d'enfants en Asie avant de se lancer dans la vie civile. Donc les jeunes, il n'y a pas trop de problème. Ils sont déjà, je crois, sensibilisés. Les plus âgés, c'est-à-dire ceux qui sont en train de devenir grands-pères, souvent quand ils voient les premiers sourires de leurs petits-enfants, il y a un déclic aussi. Et en plus, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils n'ont plus grand-chose à prouver. Donc ça va aussi. Ça bouge bien. On sent quand même qu'il y a un corps dur entre les deux. On va dire les gens qui ont entre 30 et 50 ans, donc je suis un petit peu dans ce corps dur-là d'ailleurs, où là c'est beaucoup plus dur de faire bouger les choses parce que les gens ont tous la tête dans le guidon, sont tous du court terme en train de sauver leur poste ou leur entreprise, entre guillemets, et d'essayer de résister aux différentes crises. Donc ça, c'est pas le plus facile.
30-50 ans, c'est le cœur de la population active. Comment est-ce qu'ils peuvent s'y prendre? Ils arrivent un beau matin dans leur entreprise en disant écoutez, ça oui, ça non?
Je crois pas qu'on puisse tout basculer, tout casser du jour au lendemain, surtout s'il y a que la France qui le fait. Enfin, c'est le problème qu'on retrouve dans toutes les négociations mondiales à l'heure actuelle. Donc il faut déjà que chacun essaye, à mon avis, de prendre en compte ce qu'il peut à son niveau dans ses actions au quotidien. Il y a plein d'initiatives dans ce sens qui sont parfois maladroites, mais par exemple, Centrale Éthique a aussi regardé de près ce que faisait l'IRESCA, l'initiative pour la responsabilité sociale des cadres, qui va dans le même sens. Si chaque cadre se sent responsable dans son niveau et fait bouger les choses, on peut aussi faire évoluer ou éviter des ruptures sans avoir à remettre à plat tout le système capitaliste, quoi.
On ne peut pas se dire, je vais arrêter mon entreprise parce que je vais essayer de faire les choses différemment, parce que pendant ce temps-là, le monde continue de tourner.
Il ne faut pas arrêter, il faut bouger petit à petit. En essayant de faire le mieux possible. Ceci étant, on n'est pas les seuls. La communauté centralienne est relativement active là-dessus, puisque pour donner un ordre d'idée, il y a aussi des think tanks, donc des groupes de travail qui se montent en dehors Centrale Éthique. Et vous venez justement de citer deux sujets. Il y en a un qui se monte sur les problématiques d'innovation. Comment on peut innover, comment on peut faire bouger les choses. Enfin, c'est pas seulement innover en termes de marketing et sortir le nouvel iPad, c'est aussi innover dans, quelque part dans le comportement au quotidien ou la conduite des affaires. Et il y a un autre think tank qui se monte en parallèle sur justement les ressources rares et la façon de les gérer. Donc c'est vrai que notre communauté, même au-delà de Centrale Éthique, se mobilise pour réfléchir sur ce qui concerne notre planète et pas seulement le clocher de notre village, on va dire. Voilà.
Il y a des ressorts d'invention financière, c'est un monde qui est perméable à certaines choses.
On a fait plusieurs dîners débats d'ailleurs Centrale Éthique sur les agences de notation et puis l'investissement socialement responsable. On avait invité des gens qui étaient dans des cabinets, des agences différentes. Il y en avait des petites, il y en avait des grosses. Et même entre eux, ils n'étaient pas toujours d'accord sur la stratégie. Enfin, ils n'allaient pas jusqu'à dire qu'il n'y avait qu'eux qui savaient faire leur travail. Mais on s'aperçoit que c'est quand même un monde qui est tendu, quoi, parce que les enjeux sont importants. Et c'est vrai qu'il y en a qui essayent de réorienter des placements financiers, mais est-ce que ça sera suffisant pour faire quelque chose de sérieux? Je ne sais pas.
On marche beaucoup avec de la modélisation, parce que c'est une façon d'organiser les choses. Est-ce que vous-même, vous avez des idées de modélisation de certains systèmes économiques, voire pour faire tourner les choses entre guillemets autrement?
Dans les groupes de travail qu'on aurait bien voulu monter Centrale Éthique, on avait émis l'idée effectivement de travailler sur les indicateurs globaux non financiers du développement durable. Personnellement, je suis assez surpris que ça n'existe pas déjà, parce qu'on s'aperçoit que les seuls indicateurs qu'on ait en matière de développement global, ils sont la plupart du temps locaux, c'est Air Paris, c'est tant de centimètres en moins dans telle banquise, à tel endroit, etc. Et en fait, on n'a pas du tout d'indicateurs globaux autres que financiers. Même quand on prend l'exemple des tonnes de CO2, c'était avant qu'il y ait le marché d'échange, quand on écoutait Christian Depertuis, d'ailleurs il était venu nous en parler dans un dîner débat, c'était un enjeu considérable, mais on parlait à l'époque des tonnes de CO2 et du mal que ça pouvait faire à notre planète. Maintenant, on ne parle plus que des millions ou des milliards d'euros que ça permet de gagner, voire de détourner, parce que les scandales qu'il y a eu sont complètement sidérants, quoi. À la fois le phishing là, sur un site web, plus le détournement de TVA, plus les crédits vendus qui n'existaient pas, enfin il y a des choses... Donc on se dit qu'il faudrait un jour ou l'autre réfléchir effectivement sur quels sont les indicateurs globaux non financiers qu'on peut trouver, sachant que tout ce qui est bonheur national brut ou autre, c'est pas forcément une mauvaise idée, mais c'est encore des indicateurs chiffrés qui sont calculés dans des tableurs qui sont pas forcément mesurés, quoi. Il y a pourtant des choses qui sont faisables, puisque le Monde, par exemple, d'aujourd'hui, explique que M. Poutine va mettre des caméras partout pour vérifier que les maisons qui ont brûlé en Russie vont bien être reconstruites en évitant le maximum de corruption. Bon, donc, si on veut donner la peine de mesurer aux quatre coins de la planète, des webcams, il y en a partout, il y a forcément des petites choses qu'on peut faire pour faire prendre conscience aux citoyens qu'il y a des choses qu'il faut arriver à contrecarrer.
Fliquer, on peut mettre des caméras partout, mais en même temps, par exemple, le PIB, comment est-ce que vous l'envisageriez ?
Mais le PIB...
On a bien inventé le PIB, on peut bien inventer autre chose.
Il y a peut-être des voies médianes à trouver entre... Parce que dès qu'on parle de bonheur national brut, on revient plus ou moins sur des indicateurs de pouvoir d'achat, de nombre d'enfants, nombre de voitures ou téléphones, etc. Enfin, j'exagère à peine quand je dis ça. À côté de ça, on n'arrête pas de parler des chiffres ramenés sur les indicateurs, le moral des ménages, le moral des industriels. Il y a sans doute des mix à imaginer entre tout ça, c'est-à-dire savoir si les gens sont heureux d'être là où ils sont. On peut leur poser des questions là-dessus. Pas seulement en allant leur demander s'ils pourront acheter plus de voitures ou de machines à laver.
La question de la survie d'un être humain, ça passe d'abord par l'économie avant le bonheur.
Oui, enfin, on a quand même la chance sur notre planète d'avoir un certain nombre de pays où, d'un point de vue pyramide de Maslow, il y a longtemps qu'on a résolu le problème des couches inférieures, quoi. C'est-à-dire que même si on a encore des milliards de gens qui... Enfin, genre un milliard, je crois, quelque chose comme ça, qui vit avec moins d'un dollar ou d'un euro par jour, il y en a quand même beaucoup qui ne savent plus trop quoi faire de leur dollar. Il y a quand même des gisements financiers où on peut... Enfin, il y a beaucoup de gens qui n'ont plus d'outils financiers quand même pour manger ou vivre au quotidien.
Et si demain vous deviez entreprendre d'aller frapper à la porte d'un ministère pour dire, écoutez, vous devriez faire ça, lequel choisiriez-vous et pour lui suggérer quoi ?
Alors déjà, c'est compliqué parce que les ministères, ça bouge tout le temps et les appellations sont multiples et variées.
Ils sont transversaux, ces gens-là, voilà.
Ils sont transversaux. Je ne suis pas sûr que ça serait le ministère du Développement Durable.
C'était un peu ma question, lequel, à votre sens, peut être efficace ?
Je crois que enfin, le cas particulier de la France est... Enfin, la France est vraiment un cas particulier, parce qu'on a des ministres qui ont une marge de liberté relativement limitée, on va dire. Donc c'est vrai que les grandes réformes qui sont en cours, par exemple, que ce soit sur la retraite ou le changement d'équilibre autour des régions, normalement, ça serait des manières de faire bouger les pions. Mais quel ministère va s'en emparer et quel ministère va arriver à en faire quelque chose d'intelligent sans que ce soit arbitré de toute façon plus au niveau de l'État ? Donc je ne sais pas si c'est les ministères qui peuvent faire quelque chose. Je ne suis pas sûr non plus que ce soit le premier personnage de l'État si son objectif est avant tout de pouvoir continuer à garder une partie du pouvoir. Donc votre question n'est pas facile. Je ne sais pas. Je donne ma langue au chat. Il faudrait réfléchir. D'abord, il faudrait avoir la liste des ministères sous les yeux.
Vous préférez d'abord aller voir les entreprises, en fait.
Dans pratiquement toutes les entreprises dignes de ce nom, maintenant, il y a des responsables de développement durable qui sont pris souvent entre plusieurs feux, mais qui ont leur conscience pour eux et qui essayent d'avancer. Donc c'est vrai qu'il faut toujours faire des compromis. Enfin, ils n'ont pas carte blanche puisqu'il y a des contraintes économiques fortes, mais il y a beaucoup de gens qui se battent quand même pour que les choses aillent dans le bon sens. Ouais. Et la preuve que ce n'est pas si simple que ça de faire bouger les ministères, on suit les appels d'offres et c'est absolument sidérant de voir que, puisque avec une autre casquette, notre métier est de faire des enquêtes, les ministères actuellement, par exemple, continuent à faire des appels d'offres en disant on veut des enquêtes papier, on veut des enquêtes téléphone, on veut même en grande partie des enquêtes de face à face, quoi. La pratique d'enquête en ligne est pratiquement pas rentrée. Alors que d'un point de vue de développement durable, si vous prenez à la fois les problèmes de papier, mais aussi les problèmes économiques, voire la facette sociétale, c'est-à-dire que sur Internet, on peut donner quand même la parole à beaucoup plus de gens que le fameux 1000 personnes représentatives de la population française. Et sur des sujets de société, c'est important que tout le monde puisse s'exprimer, surtout si les questionnaires sont interactifs et commencent à faire bouger les gens dans leur tête. Rien que sur cet exemple-là, on s'aperçoit que pratiquement tous les ministères sont restés sur des postures qui datent de 10 à 20 ans.
Est-ce que la France est en avance ou bien en retard ?
Sur le développement durable ? Je ne suis pas sûr que les atouts technologiques qu'on avait nous aient permis de prendre de l'avance. Enfin, je crois qu'on a un petit peu, avec le développement durable, le même problème qu'on a eu avec le Minitel, à savoir qu'on était tellement bon sur le Minitel qu'on a mis beaucoup de temps à basculer sur Internet.